Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 26 novembre 2022. Germain, bonjour.
Bonjour Antoine.
Bon, alors pour ceux qui ne le savaient pas, j'étais hier soir au Salon du livre de Montréal et toi Germain, tu y seras demain.
Oui, donc dimanche là, de midi à 14h au kiosque des éditions de l'Homme. Je serai là, accompagné de quelques guides de l'auto, prêts à être dédicacés.
C'est ça, exactement.
C'est pour nous préparer au Salon de l'auto qui s'en viendra en janvier.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ça se passe au même endroit.
Oui, au Palais des congrès.
Exactement. Bon, alors, actualité de la semaine, ça a été assez mince, hein, honnêtement.
Ben, c'est toujours le cas les semaines suivant celle d'un Salon de l'auto. Ouais. Hein. On dirait que l'actualité est concentrée. C'était le Salon de l'auto de Los Angeles. On a consacré un segment complet à ce salon la semaine dernière. Et effectivement, c'était plus mollo cette semaine. On a vu que Jay Leno prenait un peu de mieux. Nous voilà rassurés. Mais la nouvelle qui a retenu mon attention, c'est du côté de chez Mercedes-Benz. Et c'est une tendance qui semble, prendre de plus en plus d'importance chez les manufacturiers. On lance des lignes à l'eau. On tente de voir quelle sera la réaction des gens. Et là, effectivement, on aura un abonnement annuel pour obtenir des meilleures performances avec les véhicules Mercedes. Donc, autrement dit, au lieu de payer un montant forfaitaire de 5 ou 10 000 $ comme une option traditionnelle pour obtenir un ensemble de performances et on paye une fois et c'est terminé, là, on a un abonnement mensuel et parce qu'évidemment, tout est électronique, tout est relié à distance, toutes les données sont dans le nuage.
Autrement dit, un 2 litres turbo, ça peut faire 300, 350, 400 chevaux.
Mais en fait, c'est des véhicules électriques.
OK, c'est des véhicules électriques.
Parce que, oui, c'est ça. Donc, il n'y aura pas un ingénieur qui va venir chez toi à la fin de l'année pour diminuer la pression dans ton turbocompresseur. Là. On n'est pas là du tout.
Non, mais je veux dire, il existe des modes de conduite dans les véhicules en ce moment, puis on sait qu'on peut les déverrouiller, modifier
c'est
les puces électroniques.
C'est vrai.
Mais pour
un
véhicule électrique, autrement dit, la puissance va être garante de combien tu es prêt à mettre.
Effectivement. Et là, je te donne un exemple tout simple. Le Mercedes EQE 350 4MATIC, en optant pour cet abonnement annuel-là, eh bien, la puissance passera de 288 à 349, ce qui est quand même considérable. Même chose pour le EQE VUS, donc pas simplement la berline. Et du côté de la EQS, on a 355 chevaux. Et si on opte pour cet abonnement annuel, eh bien, la puissance passe à 443. Et c'est la même chose pour le EQS VUS. Donc, et c'est un abonnement qui coûte 900 $ annuellement. C'est moins cher qu'aux États-Unis. Je ne savais pas que quelque chose pouvait être moins cher au Canada qu'aux États-Unis, mais c'est pourtant le cas. On avait vu un petit peu plus tôt cette année BMW offrir des fonctionnalités comme ça offertes en abonnement, pas au Canada. Ça, on a tenté la chose sur d'autres marchés. On sait que VinFast, le nouveau constructeur de véhicules électriques, le constructeur vietnamien, proposera, hein, parce qu'on parle du futur, là, ces véhicules-là ne pas encore offerts, proposera une location de la batterie. Donc, on est encore là, pas très loin de l'abonnement. Donc, est-ce que ce sera une nouvelle tendance? Je ne le sais pas. Je sais pas non plus.
Mais ça montre à quel point un constructeur automobile... Parce que là, on parle que de peu profit, là.
Le véhicule en est équipé et le programmeur à distance va décider s'il coche la case ou s'il la coche pas.
C'est
là.
Ça. Oui. Et puis, l'impression, moi, que c'est une formule informatique qui va régler le problème.
Mais c'est la même chose qu'on va observer sur des plateformes numériques. Tu prends un abonnement pour Netflix, par exemple, que tu le prennes pour une personne ou trois personnes, c'est la même plateforme. Il n'y a pas eu de développement qui a été fait supplémentaire. On fait simplement ouvrir et accorder des accès qui se rajoutent. Alors, est-ce que c'est une tendance qu'on observe ailleurs que dans l'automobile, mais est-ce que c'est une tendance qui pourrait s'incruster dans l'automobile davantage? On verra si les clients seront au rendez-vous. Et d'un côté, quelqu'un qui, par exemple, se procure un véhicule et le loue pour une période de 3 ans. Les options qu'il achète neuves, pour lesquelles il paierait 10 000 $ d'options, bien, il ne profitera pas de la pleine valeur de cette option-là.
Oui, il y a certains sens logiques.
Lui, le consommateur qui loue un véhicule 3 ans, bien, va prendre l'abonnement de 3 ans pour cette fonctionnalité-là. Il n'y a rien de parfait, il n'y a rien de génial. J'ai un peu aussi l'impression que c'est une manière de plus pour les manufacturiers automobiles de venir piger dans le portefeuille des consommateurs. Ça, je trouve que c'est un irritant, mais bon.
Mais en même temps, on le fait avec des groupes d'options maintenant.
Tout à fait.
Tu sais, on t'oblige à prendre un groupe d'options à 5000 $ oui. pour avoir une ou deux options qui t'intéressent dans le groupe.
Oui.
On l'a toujours.
Tu ne peux plus y aller une option à la pièce comme ça a déjà été le cas. Alors là, Mercedes tente le coup au Canada, aux États-Unis. On verra si les consommateurs seront de la partie.
Bon, Jeep, maintenant, on pensait pas entendre parler de ce véhicule-là à nouveau parce qu'évidemment, la tendance de Jeep semble se diriger vers l'électrification.
Ou les gros véhicules.
Ou les gros VUS, les véhicules très chers. Mais là, on revient en force. On revient avec un Compass pour 2023 qui se voit greffer un nouveau moteur. On dit au revoir au 2,4 litres Tiger Shark. Oui, comme c'est triste.
Donc, au revoir le tigre, tigre requin, c'est maintenant l'heure de la retraite. Effectivement, on avait droit jusqu'à l'année modèle 2022, un moteur 4 cylindres atmosphérique de 2,4 litres qui développait 180 chevaux. Rien de moderne, rien de sophistiqué.
Et on se demandait, il était où les 180 chevaux?
Oui, c'était pas débordant de puissance. Et c'était le moteur qui était offert sur toute la gamme. Et là, on le remplace pour 2023, on lui greffe le moteur toujours à 4 cylindres, mais cette fois turbo-compressé de 2 litres et on a droit là, à 200 chevaux et 200 livres-pieds de couple.
Donc une version dessoufflée dans le fond ou dégonflée du 2 litres turbo qu'on va retrouver dans le Cherokee par exemple.
Absolument, parce que ben, dans le Cherokee, ce même moteur-là développe 70 chevaux de plus. Ouais, c'est considérable. C'est ça. Et fait intéressant, on proposait jusqu'à 2022 des versions d'entrée de gamme et de base à roues motrices avant. Ouais. Ce ne sera plus le cas. On n'offrira que des versions 4x4. Et si tu veux mon avis, c'est une très bonne chose parce que quand on veut se procurer un Jeep, même si c'est un petit Jeep, on veut profiter du système à 4 roues motrices. On change également la transmission. Donc, on aura une nouvelle boîte automatique à 8 rapports qui viendra remplacer celle à 6 ou à 9 rapports qu'on avait par le passé. Alors, quand même une bonne dose de nouveauté pour un véhicule qui n'est pas nécessairement le plus compétitif du segment.
Qui est dans la cave du segment. Là.
Oui, voilà. Et il deviendra plus intéressant en théorie, mais il ne deviendra pas moins coûteux qu'il ne l'est en ce moment. Et c'était, à mon avis, un de ses défauts. On était habitué longtemps chez Stellantis, avant que ça s'appelle Stellantis, donc chez FCA, à avoir des 4000, des 6000, des 8000 $ de rabais appliqués toute l'année sur des véhicules. Donc, on avait des PDSF qui étaient très élevés, mais on avait toujours des rabais appliqués. Là, on n'a plus de rabais, en tout cas sur une grande majorité de produits, puis les PDSF sont restés hauts.
Alors, et les taux de financement sont élevés.
Ah, bien ça, voilà, c'est un autre problème. Alors, on verra bien s'il réussira à conquérir peut-être un peu plus d'acheteurs, mais en tout cas, il aura une bonne dose de nouveautés pour 2023.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
Antoine, avant de glisser un mot sur les essais les véhicules qu'on a conduits cette semaine, un petit mot sur l'émission roulée au suivant qui fera un bref retour sur les ondes de TVA le 10 décembre prochain.
L'instant d'une semaine, l'instant d'une demi-heure en fait. On va diffuser un épisode le 10 décembre, 11h30 sur TVA. qui est issu de la précédente saison. Mais ça serait la première fois que Rouleau suivant est diffusé à TVA, parce qu'avant, c'était sur TVA Sport uniquement. Là, ça s'en vient sur TVA et la future saison sera diffusée à l'été 2023, tout de suite après les 26 semaines du Guide de l'auto qui vont commencer le 7 janvier prochain. On vient d'ailleurs de conclure la première émission en montage, alors j'ai bien hâte de la partager avec les gens. Et je vous le donne en primeur, là, vous allez voir une voiture électrique américaine d'exception comme première à la première émission du Guide de l'auto.
Ça promet?
Je vous laisse deviner de quel modèle il s'agit, mais il y a le mot R dans le nom du véhicule.
D'accord. Ça donne une bonne idée.
Alors, c'est ça. Rouleau suivant,
tentons
10 décembre.
Tentons de rester assez lucide, là.
Oui, exactement. On s'en va, c'est ça. 10 décembre pour Rouleau suivant, 7 janvier pour le Guide de l'auto. Et après ça, on est là pour 34 semaine consécutive à la plage horaire de 11h30 le samedi matin.
Excellent. De mon côté, Antoine, j'ai conduit la Volvo S60, un véhicule que j'ai, j'oserais dire, redécouvert. Je l'avais déjà conduit dans un autre contexte, mais là, de passer une semaine là, complète au volant de ce véhicule-là, j'ai parcouru 1100 km avec le véhicule et c'est une version que j'oserais dire là, ordinaire. Donc, j'avais la mécanique B5 et l'appellation des mécaniques chez Volvo n'a pas grand-chose de logique, si tu veux mon avis. Le B5, c'est le 4 cylindres, 2 litres, turbo-compressé, avec le système d'hybridation légère seulement. Donc, c'est pas branchable, c'est rien de ça.
Ouais.
Et donc, on a 250 chevaux, 258 livres-pieds. Et franchement, je trouve que c'est un très, très bel équilibre. Évidemment, on n'a pas le droit à quelconque crédit crédit du gouvernement. Au Québec, au Canada, c'est intéressant d'opter pour une version recharge dont l'autonomie est prolongée.
Ouais.
Ça, franchement, ça en fait une auto intéressante et surtout dans le cas de la familiale. Parce que, bon, c'est très, très complexe. Là. J'en avais parlé un peu sur une autre tribune, mais en fait, la Volvo S60, étant donné qu'elle est une voiture, elle n'a droit seulement qu'à 5 000 $ de crédit. Alors que la V60, qui a la même plateforme, la même voiture, tout est pareil, la même autonomie, la même batterie, tout est pareil. Mais elle a un hayon au lieu d'une valise fermée et elle a droit à 10 000 $ de rabais. Alors moi, la S60, c'est une voiture que j'adore. C'est une voiture que je trouve franchement élégante. J'ai toujours eu un penchant pour les familiales. Je pense que c'est pas un très grand secret. Et là, en plus, en tombant admissible à un crédit aussi important, ben ça en fait...
voiture tout simplement plus alléchante.
Ben oui, on ne se pose tout simplement pas la question. Mais revenons quand même à la S60 avec sa version B5. Et ce que j'ai aimé de cette voiture-là, c'est qu'on n'a aucune prétention. On ne prétend pas te confier entre les mains une voiture sportive. On ne prétend rien de ça. C'est une voiture qui, je pense, est un peu trop oubliée. Une voiture qui est certainement boudée par cette classe d'acheteurs-là. Mais c'est confortable, c'est nerveux, mais pas sportif. Ça ne brasse pas de partout. C'est confortable. Il y a de l'espace à bord. Franchement, elle a énormément de qualité. C'est une excellente routière et elle n'est tout simplement pas considérée et ça ne se justifie pas, à mon avis.
Et moi, je vais te poser une question par rapport à cette voiture-là, parce que je sais que tu as aussi conduit une des voitures que j'ai conduit pour l'émission du Guide de l'auto.
D'accord.
La C300 de nouvelle génération, qui, elle aussi, a droit à une hybridation légère. Ce sont deux voitures avec des mécaniques comparables en direct compétition et qui ne jouent pas la carte de la sportivité au même titre qu'une A4 ou qu'une série 3, série 4. Alors, j'aimerais ça que tu me parles de ces deux voitures-là en parallèle, parce que moi aussi, j'ai pu conduire les deux. Et je t'avoue que pour des raisons différentes, encore en ce moment, je ne sais pas vers où je me dirigerais.
Écoute, je peux pas te dire que mon choix serait très, très clair. Évidemment, on a un logo qui rayonne assurément plus chez Mercedes que chez Volvo, mais en même temps, j'en ai rien à cirer en bon français du logo qui flash.
Mais installé à bord, le confort, le côté moderne de la Mercedes, c'est impressionnant, mais en même temps, c'est déroutant.
C'est moderne, comme tu le dis, mais il y a une panoplie de menus. Ça prend carrément un temps d'adaptation avant d'apprivoiser la machine. J'ai envie de te dire que je prendrais la S60. J'ai bien envie de te dire ça. J'ai été épaté par la C300, c'est pas peu dire, et j'ai adoré que ce ne soit pas justement une version AMG avec des roues surdimensionnées, puis une sonorité à bord qui est exagérée et amplifiée. C'est une voiture ordinaire, comme on l'est ordinaire, tout étant relatif, là, mais c'est pas une version éclatée, ça demeure une version ordinaire, peinte en bleu, elle était magnifique, en plus, cela dit. Mais j'opterais pour... J'ai préféré mon temps à bord de la S60, qui semble avoir aussi un coffre plus pratique. J'ai pas les données en litres sous les yeux, mais en tout cas, sa configuration, l'ouverture du coffre, elle est très grande aussi. Alors,
moi, j'ai aimé le fait que dans les deux cas, on a une instantanéité au niveau du couple qu'on n'avait pas avant.
Mais il y a un petit délai plus grand chez Mercedes.
Tu vois, chez Mercedes, j'ai quand même trouvé que c'était très bien par rapport à ce que ça a déjà
oui,
été.
Oui, absolument. Mais on a un petit délai de plus qu'on n'a pas chez Volvo.
Mais je donne l'avantage à Volvo pour les sièges, pour la position de conduite. J'aime le fait que ce soit une voiture un peu plus sous le radar. Je ne sais pas si tu comprends.
Peut-être un petit peu plus puriste. Tiens, on n'achète pas une Volvo par hasard.
Non,
on n'achète pas une Volvo parce qu'on a vu une pub. On n'achète pas...
Ou parce que son voisin en a...
Non. Puis on n'achète pas une Volvo pour épater la galerie. T'as tout compris. C'est pas ça. Ça me plaît beaucoup.
C'est en ce sens-là que moi aussi, je pense que j'irais... La puissance, c'est à peu près la même.
Mais je ne prendrais pas une S60, je prendrais une V60.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Tu sais, entre une C300 et une S60, je prendrais la S60, mais je ne prendrais pas la S60, je prendrais la V60.
Même chose pour moi aussi. Tu sais que Mercedes-Benz, ben, pour la nouvelle génération de la classe C, il n'y a pas de familial encore, là.
Non.
Hein? Alors, est-ce qu'on va nous la ramener? Parce qu'on avait continué de la conserver sur le marché canadien alors que les Américains ne l'avaient pas. Mais là, avec la nouvelle génération et avec la panoplie de données VUS qu'on nous propose, GLA, BCDE, FG, HIJ, KL, MNOP, QRST, ULZ.
C'est l'alphabet au complet.
Il va-tu avoir encore de la place, pour une voiture familiale? Ça, je ne sais pas.
C'est un beau lapsus, hein? Parce que la familiale
coûte beaucoup de piastres.
Oui.
Voilà.
De ton côté, tu as conduit, Antoine, la Genesis G80 en version électrique il y a quelques semaines, quelques mois, alors que tu étais absent. Notre collègue Louis-Philippe Dubé nous en avait parlé brièvement parce qu'il avait assisté, lui, au lancement de cette voiture-là. Toi, tu as pu la mettre à l'essai dans un contexte plus, plus quotidien. Là.
Plus quotidien. J'avais d'abord goûté à la voiture lors des essais du NACTOY, jury nord-américain du véhicule de l'année, voiture et camion de l'année, très brièvement. Mais là, je la conduis encore pour quelques jours. Je me suis déplacé ici au studio avec la voiture aujourd'hui. C'est très confortable. Il y a une puissance qui est intéressante et qui varie énormément d'un mode de conduite à l'autre. Il y a quand même quelques défauts sur cette voiture. Bon, d'abord, il faut que je vous dise une chose. C'est 105 000 $. Alors, pas besoin de te dire qu'il n'y a pas de crédit applicable.
Ouais. C'est dispendieux, là.
C'est beaucoup plus cher qu'une G80 régulière, beaucoup plus cher que la plus coûteuse des G80 à moteur V6. Et moins équipé parce qu'on n'a pas, par exemple, de toit ouvrant. On perd quelques petites options. Le coût pour passer à l'électrique, c'est extrêmement élevé. Et on est pénalisé par le fait qu'on a un coffre beaucoup plus petit. Les moteurs électriques prennent un espace précieux à l'arrière. Donc, on perd une partie du volume cargo.
Donc, on a adapté une voiture à essence pour en faire un véhicule électrique, alors que d'autres véhicules sont conçus initialement pour être...
Véhicules dédiés, voilà.
Oui.
C'est ça. Mais la G80 électrique, c'est ça. Le plancher du coffre est rehaussé. On perd une partie du fond du coffre. L'assise au complet est rehaussée. C'est-à-dire que quand tu prends place à bord, tu as moins de dégagement à la tête que dans une berline régulière.
Déjà que dans des véhicules coréens, on se cogne la tête souvent au plafond. Ça. Là, est-ce que c'est un problème?
Ben, c'est en tout cas, moi, à 5 pieds 10, je suis correct, mais j'aimerais ça pouvoir baisser l'assise davantage. Mmh. Et en arrière aussi, il n'y a pas beaucoup de dégagement. Parce qu'on le voit, lorsqu'on regarde le plancher de sol de la voiture, on voit qu'il y a c'est un peu surélevé par rapport aux versions régulières.
Okay.
Donc ça, c'est le petit handicap. Comme je le disais, pas de toit ouvrant. Bien sûr, des choix de couleurs. La voiture que je conduis cette semaine, elle est de couleur gris charbon avec l'intérieur blanc crème et vert foncé.
Ah oui!
C'est très particulier.
C'est audacieux, mais ça doit être très chic.
Sinon, c'est du noir. Dans cette combinaison de couleurs-là, il y a ces deux options intérieures-là, mais d'un modèle à l'autre, ça varie. J'aime beaucoup comment on travaille chez Genesis au niveau de l'aménagement intérieur, des couleurs, tout ça.
On ose arriver avec du bleu, on ose arriver avec du vert forêt.
Ouais.
Le gris, le noir, le blanc, c'est correct, là, mais on en a soupé. Et je comprends pas que d'autres manufacturiers ne réagissent pas à ça.
C'est ça. Puis,
il y a un coût associé à ça, mais quand on est dans une ère comme en ce moment où les véhicules sont pour la plupart commandés et livrés par la suite, où on n'a pas d'inventaire à gérer, ben pourquoi ne pas offrir cette possibilité-là? Bien entendu, quand tu as une gamme étendue et que tu dois avoir en inventaire un paquet de modèles, ben d'avoir un de chaque avec l'intérieur bleu, un autre avec l'intérieur rouge.
Oui, oui.
Tu sais, c'est pas gérable. Mais là, alors qu'on est dans une époque où on commande, ben pourquoi ne pas l'offrir?
Exactement. Et je te dirais que y a dans ce créneau de voiture-là, j'ai l'impression que l'acheteur moyen va surtout se laisser aller dans des teintes intérieures plutôt qu'extérieures.
Mm-hmm.
On va rester dans de la variation de gris, noir, blanc, du marine peut-être. Là, dans ce genre de berline-là, il n'y a personne qui va prendre un rouge vif sur une G80. Là, tu sais, tu comprends? Mais à l'intérieur, ben d'aller chercher des couleurs plus riches, de créer une ambiance qui est plus chaleureuse, ça peut être intéressant. Ce qui me bloque un peu, c'est justement le fait que, bon, on perd un peu en espace, malheureusement. La voiture est très chère, 105 000 $. C'est moins cher qu'une Model S, là, oui.
Est-ce qu'on en a à vendre?
Tu sais, oui. Ce sera une voiture disponible, mais le saut pour passer à l'électrique est très coûteux. Et c'est une voiture quand même passablement plus chère que du côté des États-Unis en dollars américains. Donc, quand on fait la conversion, on est pratiquement au prix d'une voiture US convertie en canadien.
On fait du Ford, là, chez Genesis.
On n'est pas loin de là. Donc, c'est un peu ce que je trouve dommage, c'est que la voiture, elle est chère et j'ai l'impression qu'il y a des acheteurs qui vont être freinés, mais en même temps, tu compares ça à quoi? Parce que
C'est différent comme format par rapport à une Model S. C'est beaucoup moins cher, tu l'as dit, mais est-ce que c'est plus petit?
Ah ben non, c'est pas plus petit, mais à l'intérieur, c'est plus petit.
D'accord.
Il y a moins d'espace, il y a moins de performance, c'est rapide, là.
Ouais.
Mais puis c'est une voiture qui a quand même 450 km d'autonomie. On est autour du point de congélation, là, puis je fais aisément 400, là. Donc, c'est une voiture qui est capable aussi, puis qui a toute la technologie pour recevoir des charges rapides jusqu'à 350 kW. Donc, c'est très, très intéressant. Il y a beaucoup d'éléments rassurants.
Il y a de la viande, là.
Et je te dirais que, bon, évidemment, par rapport à une Tesla Model S, inutile de te dire que la qualité de fabrication est complètement ailleurs. On est dans une voiture ultra solide, superbement insonorisée.
Est-ce que tu sens que la voiture est extrêmement pesante quand tu conduis?
Elle est lourde. Ça se ressent, c'est sûr. Mais c'est une G80 avec... Bon, j'avais conduit la G90. Je te donne un exemple.
Oui.
J'avais conduit la G90. J'avais été déçu du fait qu'on ne puisse avoir, par exemple, Apple CarPlay sans fil dans
d'accord.
la G90.
Oui.
Mais on avait des ports USB-C.
Oui, que tout le monde n'a pas forcément. Là.
Alors que dans la G80 électrique, on a des ports USB réguliers. Et on n'a pas plus Apple CarPlay sans fil.
Ah, ouais.
Il y a des transitions comme ça, il y a des trucs, enfin bref. Mais c'est une voiture impressionnante. J'espère que cette voiture-là va connaître du succès et que ça va permettre à Genesis aussi d'aller chercher une clientèle plus sélecte, celle qui justement va se procurer des grandes berlines électriques. Parce que c'est pas l'acheteur d'une Taycan qui va acheter
ben
ça.
Ben non.
T'sais, mais c'est une voiture beaucoup plus classique. Mais la facture fait mal. Là. Bon.
Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Comme invité cette semaine, Germain, ben Mathieu Roy, on l'a reçu à plusieurs reprises. Salut Mathieu.
Salut vous deux, ça
bonjour.
Va.
Mathieu, il y a deux événements d'importance qui s'en viennent début janvier.
Énorme.
On va commencer.
Je dirais trois même, il y a ton anniversaire au tout début de l'année.
Oui, c'est ça, c'est moins important ça, c'est secondaire.
Plus les années passent, moins c'est important,
ouais,
hein, c'est ça, d'accord.
Exactement. Je peux-tu te faire une anecdote? Fêter sa fête le 3 janvier là. C'est complètement nul, tu le sais.
T'aimes pas ça de la tourtière au micro-ondes comme souper d'anniversaire?
Les gens là sont sur un lendemain de brosse, ils travaillent le lendemain, les cartes de crédit sont loadées, puis la dernière chose que ça leur tente, c'est de faire le party. Ça fait que moi, je suis pas mal tout seul le 3 janvier.
D'après moi, tu l'as déjà dit, cette ligne-là.
Ouais, je la connais par cœur.
Finalement, mon gars, le 1er janvier, c'est bon ça. Ah. T'as une double fête.
OK, parfait. Mathieu, 7 janvier.
Oui.
C'est aussi l'anniversaire de ma mère, soit du temps passant, mais ça, c'est pas grave. Tant qu'à parler d'anniversaire. Mais c'est aussi la diffusion de la deuxième saison du Guide de l'auto sur TVA.
Et ça, ça nous intéresse un peu plus.
Oui, c'est ça. Bonjour, maman. Et évidemment, tu feras partie de la nouvelle émission quotidiennement. Tu as une analyse chaque semaine de chacun de nos véhicules.
Est-ce qu'il y aura un grille-pain cette année encore? Moi, c'est tout ce que je veux savoir.
Oh, attends, il n'y a pas de grille-pain.
Mais il y aura mieux que ça.
Il y aura séchoir à cheveux, machine à expresso, il y aura une scie à onglet.
Une scie à l'onglet, un écran de télé, des lumières Adèle.
Antoine a fait de la menuiserie,
franchement.
On s'est amusé pas mal.
Voilà, rassuré.
Ouais, c'est ça.
C'était vraiment un exercice, blague à part, hyper intéressant parce que chaque semaine, j'avais d'imposer un véhicule et je devais trouver une observation, une analyse, une critique technologique de ce véhicule. Vraiment, j'ai adoré ça, puis ça m'a plongé au cœur, justement, de la bête automobile. Puis c'est pas terminé, là. On tourne encore.
Exactement.
Belle expérience. J'ai vraiment hâte de voir aussi ce que les gens pensent de ça parce que ça fait partie de l'achat d'un véhicule maintenant, que de considérer la technologie. Puis que pas nécessairement la technologie liée à la conduite, même la technologie liée au divertissement. Donc,
la technologie embarquée de toutes les façons, les applications qu'on a sur nos appareils mobiles, la façon d'utiliser l'audio, la navigation.
Toute l'information qui nous est proposée, projetée, envoyée à l'écran, comment est-ce qu'on peut justement communiquer, comment est-ce qu'on peut interagir? Tout ça est hyper important. Je t'en parlais il y a de ça quelques mois, puis j'ai l'impression qu'on va changer d'avis là-dessus, mais fut un temps où je disais ça ne sera pas un facteur d'achat, mais ça peut faire en sorte que tu ne rachèteras pas le même véhicule si ton expérience n'a pas été bonne.
Mais de plus en plus, ça devient un facteur d'achat.
Exactement.
Oui.
Exactement, parce que quelqu'un qui est habitué avec son Apple CarPlay, s'il arrive devant un nouveau véhicule qui n'est pas compatible avec Apple CarPlay, va faire dire « ben, ciao, bye, je vais passer à un autre appel ».
Moi, je peux te dire une chose. Comme client de chez General Motors, il y a une technologie que GM propose depuis plus de 20 ans maintenant qui s'appelle OnStar.
Oui.
Se faire harceler comme ça... par OnStar et par SiriusXM pour des abonnements, des rabais, des contrats,
Tu sais, OnStar, c'était bien à une époque où personne n'avait de téléphone cellulaire ou que c'était très marginal. Maintenant, il y a de la localisation en temps réel sur ton téléphone intelligent.
Il y a un mode SOS maintenant.
Bon.
C'est que si, par exemple, tu es dans ton véhicule et que ton téléphone reconnaît un patron de décélération rapide, qu'il y a un arrêt brusque, qu'il y a un changement de pression dans l'habitacle... par le déploiement des sacs gonflables, eh bien, le téléphone va se mettre en mode urgence et va contacter justement tantôt les secours ou encore un contact d'urgence parce qu'il va dire « Oh, il semblerait que vous ayez été impliqué dans un accident vrai, faux. » Tu sais, il va vous aviser et il va prendre action si jamais il n'y a aucune action qui a été posée pour annuler cette commande-là.
Ça, c'était le premier événement de l'année 2023. Deuxième événement, qui est la raison de ta présence aujourd'hui, on prépare actuellement le salon CES, le Consumer Electronics Show, qui se tient à Las Vegas.
Il y avait un S de trop là-dedans.
Non, il est là. Il y en a plusieurs. Electronics. Electronics, c'est mon anglais qui est pas parfait. Et,
OK.
OK. Et ben pour toi, Mathieu, c'est...
C'est Noël.
Oui, c'est Noël en tout début d'année.
Ouais, et c'est depuis 1967. C'est quand même... ça a un long héritage quand même. C'est le plus gros événement techno. C'est le Super Bowl.
Il avait fallu faire compétition à l'Expo 67 dans ce temps-là, c'est ça?
Sans le monorail.
La technologie était quand même assez intéressante. C'était surtout de la télévision, mais encore et surtout de l'audio, ben de la radio. C'est une foire commerciale de technologie quotidienne. C'est-à-dire qu'il y a des trucs là, qui sont hyper concrets. C'est là-bas qu'on a dévoilé la Xbox, notamment le DVD, des écrans plats. Vraiment, là, il y en a dans tous les domaines, dans la science, dans la maison. Donc, tous les domaines sont représentés là-bas.
Et de plus en plus, l'automobile occupe une place importante.
L'automobile n'était pas là jusqu'à il y a quelques années. Et l'automobile a commencé à faire son entrée là-dedans dans le Consumer Electronics Show, tellement qu'il y en a qui disent que c'est le Car Electronics Show. Mais la voiture est arrivée dans ce salon-là par la technologie dans les autos ou les accessoires techno qu'on pouvait installer dans l'auto. Mais là, il y a eu un changement radical de philosophie de la part des constructeurs automobiles. C'est-à-dire que maintenant, on est là, par exemple, il y a des Volkswagen, Toyota qui sont sur place et qui nous présentent des innovations, mais aussi il y a même des voitures qui sont dévoilées
au
Consumer Electronics Show.
Bon, cette année, on sait déjà que Ram va dévoiler son camion Revolution sur place. Volkswagen aura la ID7 sur place qui sera sa grande berline 100% électrique. Si je ne m'abuse, Sony avait présenté sa voiture électrique là-bas.
Bien, Sony, justement, moi, je suis au kiosque Sony pour leur présentation. C'est tout le temps haut en couleur. On est tout le temps très confortable. C'est le fun. On regarde ça. Et à la fin, tout le monde est jeté sur le derrière. Ils nous présentent une voiture. Une voiture Sony qui était littéralement un
engagement. On était à quelle année à ce moment-là?
Écoute, c'était avant la pandémie.
Ouais, 2018-19.
Exactement. Et là, c'était littéralement... Sony avait mis là-dedans tout leur savoir-faire. Ils sont capables de créer des capteurs, ils sont capables de faire des écrans, ils se sont associés à un constructeur et ils ont dit, voici ce qu'on est capable de faire. C'est un exercice de style, de faisabilité. C'est une démonstration de leur savoir-faire. Et puis, après la pandémie ou pendant la pandémie, ils sont arrivés avec une deuxième génération, une version améliorée, renouvelée de la voiture. Je suis comme, mais ils sont vraiment sérieux d'aller là-dedans.
Qu'on ne commercialise pas encore, mais c'est une preuve qu'on est capable.
C'est en plein ça. Et c'est vraiment intéressant de voir ça. Et c'est tellement hallucinant que je ne me souviens pas de la statistique exacte, mais le Consumer Electronics Show, si on le place à travers les plus grands salons de l'auto du monde, il se classait dans le top 10, alors que ce n'est même pas un salon de l'auto.
Oui, c'est ça.
Mais vous...
Et ce n'est pas ouvert au public non plus, donc ça s'adresse aux gens de l'industrie.
C'est un peu comme le CIMA. Ouais. Le CIMA Show, c'est un salon de l'après-marché automobile pour les gens de l'industrie et un peu pour les médias. Alors, c'est la
même
chose.
Après, si ton voisin travaille chez Napa, tu peux avoir une entrée, mais ce que je veux dire, tu peux pas te présenter à la porte et procurer un billet à l'entrée.
Non, faut que tu sois un distributeur, faut que tu sois un fabricant, faut que tu sois une personnalité des médias, un journaliste, un chroniqueur. Il y a 4500 compagnies qui présentent là-bas des produits. Il y a à peu près 20 000 nouveaux produits présentés. C'est un petit peu moins.
Et comment tu fais pour te démarquer dans cette espèce de bassin-là qui ne finit plus? Si toi tu as arrive et que tu n'es pas un Sony et que tu présentes la technologie que tu as développée avec ta petite start-up, là, par exemple.
Ben justement, il y a des sections qui sont justement dédiées aux compagnies, là, aux nouvelles pousses, aux start-up comme ça, mais la manière de se démarquer, c'est littéralement d'avoir un produit qui est intéressant, qui attire les regards, mais c'est parce qu'on voit tellement de choses dans une journée, ça n'a aucun sens. J'ai pas assez d'opportunités médias pour parler de tout ce que je vois dans une journée. Il y a des incontournables, puis à chaque année, tu te dis, vers quoi je vais me concentrer? Et pendant un bon bout de temps, moi, je ne m'occupais pas du volet automobile parce que c'était pas ma spécialité.
Ça le devient, là.
Ben là, ça n'a pas le choix de le devenir parce que ce qui est dans les voitures, c'est des choses dont j'ai traité il y a peut-être 2-3 ans dans le monde quotidien en général. Tu sais, à quoi s'attendre au CES côté voiture? Au CES, il y a un folklore à chaque année, c'est les téléviseurs. Il y a toujours un téléviseur plus grand, plus mince. Et ça fait des années que c'est comme ça. Le premier écran plat, 50 pouces, là, c'était extraordinaire, cathodique. Là.
On est rendu à quoi, 80?
Non, on était rendu genre, ça se calcule en pieds, Antoine. C'était rendu hallucinant.
Mais moi, je continue d'écouter Netflix sur mon cellulaire.
grand bien t'en passe, mais tu vas voir qu'il y a tout un pan de...
Vous comprenez maintenant pourquoi, à 25 ans, Germain porte des lunettes.
mais c'est drôle parce que dans le monde de l'automobile, il y a où ici cette espèce de culte de la télé. Ici, c'est pas une télé, mais c'est le culte de l'écran. C'est quel constructeur automobile va nous présenter la voiture avec dans son habitacle les plus grands écrans de meilleure qualité?
C'est 1,80 m dans la Mercedes QS. 1,60 m, quelque chose comme ça.
Ah oui. Puis c'est en plus courbé. Puis ça, c'est sans compter certains véhicules qui, en arrière, ont des écrans d'à peu près une trentaine de pouces. Là. Ouais. Évidemment, c'est pas le même rapport 16-9, mais ça, c'est
le fameux rapport 16-9, n'est-ce pas, Antoine?
Mais le ratio 16-9, là, vous savez de quoi je parle, là, les écrans rectangles. Il y aura aussi, et bien sûr, toujours encore plus de voitures autonomes. On va nous démontrer, on va nous montrer ce que les voitures peuvent faire seules.
Il faut arrêter de nous les montrer à Las Vegas, ces voitures-là. Il faut nous les montrer sur le boulevard des Laurentides, qui est complètement ruiné, pas de ligne pointillée, pas de ligne dans le milieu, une voie pour bus. Moi, c'est ça que je veux voir.
Okay, mais moi aussi, je veux voir ça. Puis tu vois, durant une tempête de neige l'année passée à New York, ils ont fait sortir les voitures de Google Waymo pour faire justement de la prise de données puis essayer de voir comment le comportement des voitures était en situation hivernale. Mais avant de savoir marcher, il faut savoir ramper. Et en ce moment, la voiture autonome...
Elle rampe!
Non, mais elle marche vite en tabarouette. Elle n'est pas encore en train de faire des sprints, mais donne-y encore une couple de mois, là, ça va très vite, les innovations là-dedans. Et attention, voiture électrique, mais quand je dis voiture, véhicule électrique. L'électrification, bien sûr, des voitures, mais des camions, des tracteurs, des véhicules agricoles, des véhicules de ferme. John Deere est là. Je ne serais pas surpris qu'on nous présente quelque chose lié à la voiture, aux camions ou en tout cas aux moissonneuses, batteuses autonomes, mais aussi certains véhicules qui seront électrifiés. Les capteurs vont être de meilleure qualité, de plus en plus petits. Donc, on va pouvoir avoir une voiture où rien ne dépasse. Donc, esthétiquement, très jolie. L'intelligence artificielle va être là. Sony, très certainement, va récidiver avec sa voiture. Puis, il faut aussi se mettre dans un contexte complètement différent. Puis c'est là que votre travail est appelé aussi à se transformer parce que vous allez devoir non plus considérer les constructeurs automobiles comme des compagnies qui fabriquent des voitures, mais comme des compagnies...
Des compagnies d'électronique.
Oui, mais des compagnies qui déplacent des gens. Ça va devenir ça. On va passer d'une voiture qui est un bien privé à tranquillement pas vite une espèce de démocratisation du véhicule public, un peu comme un Bixi.
Mais avec toujours comme défi le fameux dernier kilomètre.
C'est
là.
Exactement ça.
Et là, on y arrive jusqu'à ce dernier kilomètre-là, ouais, tranquillement, mais il y a cette dernière étape qu'on doit développer.
Absolument, puis c'est drôle parce que je vais raconter peut-être avec le sourire que j'ai été à Chicago cet été. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon scooter électrique, je suis allé jusqu'au métro, et du métro, je suis allé sur l'île pour aller voir le spectacle. Mais dans un avenir rapproché, ce que je ferai peut-être, c'est simplement appeler un minibus autonome qui viendra me cueillir au seuil de ma porte, qui va m'amener à la station de métro ou encore qui m'amènera directement à la salle de spectacle ou encore sur la scène extérieure.
Fait que Germain, tenue de route, 0-100, sensation de conduite.
Ce sont des critères qui vont tomber les uns après les autres.
Mais est-ce qu'on n'est pas aussi en train de voir des compagnies automobiles devenir tranquillement pas vite des compagnies de robotique?
Oui.
Parce que c'est des robots sur quatre roues en ce moment.
Littéralement. Il y a des véhicules électriques où on a des moteurs roues qu'on exploite aujourd'hui. Tu vois que c'est beaucoup plus une innovation technologique qu'un véhicule. Et il y a des entreprises, Tesla pour ne pas la nommer, Lucid également, qui sont des compagnies de développement technologique beaucoup plus que des constructeurs automobiles. Alors, tu sais, c'est fascinant de voir ça. Puis tu as toute une industrie qui doit s'adapter à cette nouvelle réalité-là. On le voit depuis 10 ans, là, les constructeurs allemands, américains, japonais sont en réaction au succès de Tesla. Ouais. C'est pas pour rien qu'on voit cette année un paquet de trucs débarquer. Tu sais, on va s'attendre au CES à voir, par exemple, un VinFast qui cherche à percer le marché nord-américain, à être présent.
Mais on a beau être là dans tous les salons avec VinFast, il va falloir un jour en vendre un premier, là.
Oui, c'est ça.
Tu sais, il va falloir se développer un réseau de concessionnaires.
Lightborn aussi, puis nomme-les. Là,
c'est pas fait, là.
Mais c'est intéressant, ces compagnies-là, puis on en reparlera à un moment donné, mais ces compagnies-là sont capables de faire la démonstration qu'ils peuvent faire un véhicule électrique, fonctionnel, avec plein de belles qualités, mais d'être capable d'en produire 20, 30, 40, 50
000. Et de le vendre, de l'entretenir ensuite, d'offrir un service après-vente, ça s'arrête pas là.
Tu peux en faire une dizaine que tu envoies un peu partout en Amérique pour que les chroniqueurs et les journalistes automobiles l'essaient, mais après ça, let's go.
Oui, c'est ça.
Vends-en 30 000.
Tu me parlais aussi, Mathieu, du fait que ce qui est intéressant au CES, c'est de voir des géants comme Apple, comme Google, se marier ou s'unir avec l'industrie automobile pour s'intégrer de plus en plus dans les véhicules, ce qui permet aux constructeurs automobiles de se concentrer sur ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire bâtir une bonne voiture, pendant que sur le plan technologique, on fait affaire avec des alliés.
Très intéressant commentaire, parce que c'est vrai, et ce qui est drôle, c'est que et Apple et Google ne sont pas présents dans le CES comme tel. Ils n'ont jamais de kiosque. Eux autres
font, sérieux?
Font des événements
En périphérie.
En périphérie, mais puis aussi durant l'année. Apple fait ses propres événements pour les annonces de produits.
Mais c'est intéressant que tu amènes ce point-là, parce qu'on a observé ça dans l'automobile aussi. Dans un salon de l'auto, à Détroit, par exemple, ben, on va avoir certains... Bon, cette année, il n'y en avait pas beaucoup, mais Ford organisait son propre événement en périphérie, périphérie de ça, et organisait selon son désir, à l'heure où on voulait, comment on voulait, la grandeur qu'on voulait.
Ben, c'est la technique Apple. Apple fait ses keynotes pour annoncer ses téléphones. Ils n'ont jamais annoncé de téléphone au CES.
Ouais,
puis Google a, oui, un kiosque, mais il est à l'extérieur des centres de conventions, de conférences et tout ça. Là. Mais leur présence est là, mais pas dans le CES comme tel. Mais l'alliance dont tu parles, elle est extrêmement intéressante. Et d'après moi, on va en voir de plus en plus. Tu disais que les constructeurs sont en réaction. Regardez bien la quantité de compagnies techno qui vont se coller aux constructeurs automobiles et inversement, parce que les deux ont... Tu sais, c'est du mutualisme. La compagnie techno a besoin d'exploser puis a besoin de croissance. Puis les compagnies automobiles, ben elles ont besoin de faire du rattrapage par rapport aux produits qui
sont elles ont le bassin de clients déjà.
Et ils ont l'argent pour pouvoir acheter ou encore pour pouvoir...
Puis c'est pas d'hier, là, parce que, écoute, au début des années 2000, moi, je vais toujours me souvenir quand il y a eu un communiqué lancé par Toyota où on venait de s'associer avec Panasonic pour l'audio.
Ouais. Et Ford... Puis NSYNC, c'est ça?
Bon, NSYNC, c'est une...
Ouais, c'est de ça. Microsoft. Mais NSYNC, c'est un groupe de musique. C'est une autre histoire, ça.
Ouais, c'est ça. mais Panasonic, aujourd'hui, fournit des batteries à Toyota pour des véhicules électriques. Alors, l'association qui a commencé à fournir des radios singled in pour mettre dans une Celica est rendue complètement
ailleurs.
Mais même
en Formule 1, on était associé à Toyota avec Panasonic. Ça date pas d'hier.
Il va vraiment avoir des échos de ça, et plus que jamais, ça va être super au CES. Puis, je veux revenir sur une chose qu'on a vue l'année passée. BMW, leur revêtement qui changeait de couleur.
Oui,
gris à noir. Je peux pas croire qu'il n'y aura pas une suite à ça.
Oui, on va rajouter d'autres couleurs. Ça serait une bonne idée.
Peut-être
là, que
d'autres fabricants vont être capables de proposer une technologie similaire. Les pneus increvables, on en parle, on en voit souvent. J'ai l'impression qu'il va peut-être avoir de quoi là-dedans. Puis évidemment, réalité augmentée, on va être capable d'ajouter directement peut-être sur le pare-brise des informations utiles à la conduite. Puis après ça, ben, les villes intelligentes aussi. Là, on a toujours des espèces de rêves un peu où les voitures se parlent entre elles, mais les feux de signalisation aussi. Puis on est capable d'adapter la synchronisation des feux en fonction du trafic. Puis de l'achalandage dans certains segments.
Les Sims, ça va devenir la réalité, c'est ce qu'on comprend?
Ben, je veux dire, on est à quelques clics, là, oui.
J'ai l'impression qu'il nous reste encore plein de choses à dire. Mathieu, tu reviendras nous voir d'ici la fin de l'année, sinon on se reprendra en début d'année prochaine, j'espère.
Ben, ça fera grand plaisir, messieurs. C'est toujours très agréable de parler de techno et auto.
Plaisir. Salut, Mathieu.
Antoine Joubert, Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
Antoine, terminons l'émission avec quelques questions des auditeurs. On a Vincent qui voudrait savoir ce que tu penses du Audi e-tron 55 Quattro 2023. Ce serait son premier véhicule électrique.
J'avoue que j'ai hâte de le conduire, le modèle 2023, parce qu'on va majorer l'autonomie sur ce véhicule-là. On va améliorer quelques petits éléments techniques. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce que, oui, le e-tron, ça a été un des premiers dans ce segment-là. Mais on ne peut pas dire que l'autonomie était jusqu'ici impressionnante. Et la conduite, ça me laisse un peu sur mon appétit. Mais avec l'édition 2023, ben j'ai l'impression qu'on va se mettre au diapason de ce qui vient d'arriver sur le marché comme compétition, c'est-à-dire Mercedes EQS SUV, évidemment le BMW iX, qui est un produit qui, lui, m'a impressionné beaucoup. C'est sûr que la variante Sportback est très belle, là, de l'e-tron, mais reste à voir ce que ça va donner avec la version 2023, qui est peut-être un peu plus convaincante que celle de 2022. Oui, c'est un véhicule que je suis capable de commander parce que c'est rare, on se les arrache sur le marché. Il y a une grosse demande pour ça, même si c'est des véhicules qui frôlent les six chiffres et qui coûtent quand même pas mal de sous.
On a Maurice qui nous indique qu'il a remis un dépôt pour un Toyota RAV4 Prime il y a un an. Il a été informé qu'il était le 340e sur la liste et qu'il pourrait attendre jusqu'en 2025. Il aimerait trouver une alternative, évidemment. Il possède actuellement un Kia Sorento 2019 et désire un VUS d'un format un peu plus petit et qui serait hybride rechargeable. Il aimerait l'obtenir dans un délai plus bref que 3 ans.
Oui, ouais, on aimerait tous ça.
On aimerait
3 ans, ça
n'a
pas de bon sens. En fait, le RAV4 Prime, oubliez-le tout simplement. Faites comme si c'était une licorne, un véhicule qui n'existe pas. L'alternative intéressante en ce qui me concerne, c'est le Mitsubishi Outlander PHEV.
Que je conduirai la semaine prochaine. On pourra en revenir. De ton côté, tu avais conduit une version pré-production,
ouais,
qui était
exact.
Très près de la version de production,
voilà.
Là, mais qui semblait très prometteur. Là.
Exactement. Alors que, évidemment, l'Outlander, ça se rapproche dangereusement du format de votre Sorento et vous dites vouloir baisser un peu au niveau du format. Et à ce moment-là, l'option la plus intéressante, c'est peut-être d'aller vers un Escape hybride rechargeable, mais vous perdez l'avantage des quatre roues motrices. Il existe aussi un Kia Sportage PHEV, un Hyundai Tucson PHEV, mais ces véhicules-là ont une autonomie moindre, ont une technologie qui m'impressionne peut-être un peu moins. Moi, personnellement, je privilégierais l'Outlander PHEV. Oui, il y a une liste d'attente pour ce véhicule-là, mais au moment où on se parle...
Certainement pas 3 ans. Là,
ben, c'est voilà. Ça. Vous auriez probablement autour d'un an à attendre pour ce véhicule-là.
Mais il faudra pas trop tarder, parce que là, les premières unités arriveront d'ici Noël, d'ici la fin de l'année.
Ça commence à débarquer, là.
Ouais. Et là, l'engouement va grandir tranquillement au fur et à mesure que les gens verront sur la route et prendront connaissance de l'existence de ce modèle-là.
Bien, et il y a tous ceux qui souhaitent avoir un RAV4 Prime et qui ne pourront jamais l'avoir, qui vont chercher des alternatives comme Maurice le cherche.
Parce que s'il est 340e sur la liste, on peut imaginer que le 339e est lui aussi mécontent. Là.
Le 218e également.
Oui, t'sais, absolument.
C'est ça. Alors oui, c'est un problème chez Toyota. C'est un véhicule qui tient du rêve plus que de la réalité, malheureusement.
On a Philippe qui nous écrit pour sa mère. Elle s'est fait voler sa Nissan Sentra 2015 et elle hésite entre 3 VUS, soit le Buick Encore GX 2022, le Mazda CX-30 2022 et le Toyota Corolla Cross 2022 également. Elle a besoin du rouage intégral et espère conserver son véhicule entre 8 et 10 ans et elle voudrait connaître le meilleur choix entre les trois, selon toi.
J'élimine le Buick Encore GX parce que le moteur à 3 cylindres ne me convainc pas et je ne suis pas persuadé de sa fiabilité à très long terme, d'autant plus que c'est un moteur turbo-compressé. Maintenant, le CX-30, c'est un véhicule qu'on aime beaucoup, mais il faut comprendre que sa conduite est plus sportive et que c'est un véhicule moins pratique que si on regarde du côté de la Corolla Cross. Alors, je ne déconseille absolument pas le CX-30, mais il faut que ça convienne. Et
dans la liste, on n'a pas non plus le Subaru Crosstrek, mais ça pourrait être un très bel achat également.
Mais je me fie un peu sur ce que madame conduit. Une Sentra 2015, c'est pas un véhicule à tendance sportive. On souhaite avoir un véhicule un peu plus générique qui va durer le plus longtemps possible. Et en ce sens-là, moi, j'irais vers la Corolla Cross qui est plus confortable, plus aseptisée que le CX-30, qui est un véhicule avec une visibilité un peu plus problématique, mais une conduite beaucoup plus sportive, une puissance supérieure. Donc, c'est ça. Ça dépend vraiment de ce qu'on cherche, mais je m'imagine que si on veut avoir une conduite plus aseptisée et qu'on veut surtout avoir une tranquillité d'esprit d'abord et avant tout, mais d'aller vers la Corolla Cross, c'est une option intéressante. D'autant plus qu'on va arriver d'ici quelques mois à peine avec une version hybride.
Ben, là, voilà. On attend de pied ferme. Là. Ça promet énormément.
Et celle-ci va offrir le rouage intégral.
On fera pas de miracle avec la consommation de carburant, d'après ce qu'on a pu voir. Ça ressemblera à celle du Toyota RAV4.
Mais on est dans les territoires du 6 litres au 100, c'est déjà très bon.
C'est difficile d'aller chercher des dixièmes de litre rendus là, mais
on va consommer à peu près la même chose, peut-être un peu moins avec un Corolla Cross hybride qu'avec la Sentra 2015, qui est une voiture extrêmement économique.
C'est vrai.
Alors, voilà.
Un excellent week-end à toi, Antoine.
Toi également.
Cube Radio.